simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ben alors, comme vous pouvez vous en douter, une large partie de notre émission va être consacrée aux élections municipales qui ont lieu ce week-end. Alors, on va pas forcément faire des commentaires sur les résultats des élections, mais on va, que ce soit d'abord, il y a un second tour la semaine prochaine, donc tout n'est pas fixé, mais en plus, on va arriver là dans une période de vraie tambouille politicienne puisque se passent les accords de fusion, d'accords, de report, etc. Enfin bref, le grand marché est ouvert. Et puis fondamentalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on a absolument pas beaucoup parlé politique dans ces municipales. On a regardé ça avec vraiment un échelon très très haut, à savoir est-ce que la gauche allait être irréconciliable ou pas, est-ce que le RN allait s'installer durablement ou pas, et que finalement, on a vraiment pas beaucoup parlé de ce qui constitue le cœur en fait du pouvoir de ces municipales et puis de l'élection en elle-même, parce que Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et la première c'est que on va certainement avoir là si les chiffres qu'on a au début de cette semaine se confirment un vrai crash démocratique parce que d'une part on a une abstention qui est extrêmement forte.
Ah, forte, ouais.
On est à 50, plus de 50%, ouais. Hein. 56%, c'est le deuxième score le plus faible des municipales de la Ve République. Celle de 2020 étant évidemment extrêmement particulière en relation avec le Covid. Donc, si on considère des élections normales, c'est le taux de participation, ouais, le plus bas
ouais,
pour les élections municipales, qui témoigne d'une longue érosion au cours de ces 20 dernières années, 70, 60, etc., etc. Ça baisse. Il y a certainement tout un tas de raisons, mais je pense que d'une part, il y a des gens qu'ont pas le temps, qu'ont pas envie, qu'on n'a rien à fiche, qui pensent que ça les concerne pas, puis il y a une vraie lassitude des élections, de la chose politique, et il y a le fait de penser que ces gens-là ne peuvent rien pour nous. Alors, fondamentalement, c'est vrai, ils peuvent rien pour nous. Ceux qui peuvent quelque chose pour nous, c'est nous, d'abord. Mais il y a quand même des enjeux qui sont importants et qui passent de trucs. Et puis, il y a un vrai crash démocratique, c'est que il y a eu. Comme régulièrement des remaniements de ces méthodes de scrutin et de ces méthodes d'élection, qui font que aujourd'hui l'éparpillement, la polarisation des listes et puis les nouvelles règles font que de nombreux maires pourraient être bien élus avec beaucoup moins de 50% des voix, mais avec des très larges majorités en siège. En effet, pour stabiliser les majorités municipales et donc avoir ce qu'on appelle un fait majoritaire, le mode de scrutin fait que un maire qui obtiendrait 50%, qui arriverait en tête à l'issue du second tour, gagnerait 50% de l'ensemble des sièges d'une part et 50% et 25% des sièges qui restent. Donc ça veut dire que quelqu'un qui arriverait par exemple avec 30% des suffrages exprimés, hein, Denis, hein, pas ouais. Des gens qui sont inscrits, récupère automatiquement 65% des sièges qui sont là. Et donc quelque part être opposant, ça sert à rien du tout d'une part, et ça veut dire que un maire pourrait gouverner, appliquer ses décisions contre l'avis, si on peut dire, de 50, 60, voire 70% de ses administrés. Comment peuvent se passer correctement des années de mandat à gouverner dans l'ensemble de ces moyens, dans une commune où 60% de l'électorat a voté, sinon contre vous, en tout cas pour d'autres personnes que vous, quoi. On a quand même vraiment l'impression que le potentat local est assez compliqué. Alors, d'autre part, on est sur des élections municipales. Aujourd'hui, on sait que la structure, en fait, l'échelon principal, c'est l'intercommunalité, hein, que l'ensemble des communes sont réunies dans des groupes de communes, ce qu'on appelle des intercommunalités, dans lesquelles, évidemment, ben, les communes les plus riches et les plus importantes démographiquement, mais aussi en termes de moyens et de capacités, ben, écrasent, dictent la dynamique majoritaire de ces intercommunalités, sauf évidemment en ce qui concerne les charges et les cotisations, puisque pour le coup tout le monde paye pareil. Alors ça donne des trucs, hein, avec évidemment des taxes ordures, des choses comme ça, des plans de transport, hein, ça aussi, hein, où il y a des vrais bastons par rapport à ça. Là-dessus, le bon gars ou la bonne dame qui vous est venu voir pour solliciter votre voix, elle vous a peut-être pas tout raconté dans le détail de comment ça se passait, en vrai. Alors, ce qui est sûr, hein, c'est que on a des enjeux qui sont aussi beaucoup plus secret, beaucoup plus étagé, et on a pu certainement voir certains groupes politiques s'enflammer un peu là-dessus, sans nous parler forcément du programme, parce que à la fin de cette année, il y a une partie du Sénat qui va être renouvelée. Donc ouais. Le Sénat, c'est la chambre haute, c'est les vieux, hein. Ceux qui sont payés
plus
cher.
Maintenant.
Plus maintenant, ça commence à se rajeunir, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la chambre haute. C'est eux qui valident une partie des lois, même si normalement, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Mais dans un régime parlementaire bicaméral, avec deux chambres, il y a un système d'aller-retour. Et traditionnellement, la chambre haute, le Sénat, est considérée comme étant plus conservatrice. Donc, ce Sénat, il va être renouvelé par un tiers cette année, et le prochain renouvellement de ce Sénat aura lieu après l'élection présidentielle et législative, et donc, entre ce laps de temps, il va pouvoir y avoir une capacité de nuisance pour la fin du mandat, voire certainement une bonne partie de magouille. Et ces sénateurs, ils sont élus au suffrage indirect, parce qu'on pourrait appeler un système de grands électeurs, dont les conseillers municipaux représentent l'écrasante majorité, environ 90% des sénateurs sont élus par les conseillers municipaux. Ah donc, pour conclure, c'est extrêmement important d'avoir un maximum de conseillers municipaux pour pouvoir constituer des groupes au Sénat, et donc avoir l'initiative de déposer des projets de loi, utiliser cette arme et cet outil qu'est le Sénat pour évidemment déjà dealer des privilèges, mais aussi, parce que le Sénat s'occupe beaucoup de l'administration des collectivités locales, tirer le maximum d'avantages et de bénéfices pour son petit prix carré, et donc constituer des fiefs, des zones, des secteurs où on pourra utiliser toutes les ressources que permettent la gouvernance de la Ve République pour développer sa sphère d'influence locale. Alors voilà, ça c'est ce qu'on voit par le haut. Mais par le bas, c'est quand même hyper, hyper, hyper important, quoi, parce que ce dont on a assez peu parlé, c'est la réalité quotidienne et concrète et matérielle des gens. Par exemple, là, on va avoir quelque chose qui va extrêmement, extrêmement important, l'énergie. Qui va nous coûter de plus en plus cher. Alors l'énergie, c'est non seulement l'énergie qu'on utilise pour se déplacer en bagnole, mais c'est aussi l'électricité, c'est le gaz, c'est le chauffage, c'est la nécessité d'avoir de l'électricité à la maison pour pouvoir se connecter et faire valoir ses droits, puisque vous savez aujourd'hui tout est dématérialisé, pardon, et les services publics sont devenus totalement inaccessibles, sauf pour ceux qui ont le temps de le faire, c'est-à-dire les chômeurs et les retraités, et encore. Et encore, prenons tiens un exemple. Selon le Crédoc, donc qui est un centre d'études de la vie quotidienne, hein, et de la consommation, un Français sur deux, un ménage sur deux, 56% de la population estime que les charges de chauffage sont trop lourdes. Ce qui est vrai. En gros, si tu te chauffes à l'électrique, c'est mort. Et puis, de toute façon, si tu te chauffes pas à l'électrique, et ben t'as froid parce que dans les HLM, ben comme c'est trop cher, et ben il fait 14 degrés et ça pèle. Donc, en plus, on sait que un ménage sur 10 environ souffre de précarité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bâtiments sont mal isolés, sont mal chauffés. Donc, t'as super chaud l'été et t'as super froid l'hiver. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais comme t'es dans un logement social et que t'as pas les ronds pour pouvoir te payer un logement dans le parc privé, c'est trop cher, bah, tu restes et puis tu souffres. Et bah, par exemple, les communes, via leur centre communal d'action sociale, le CCAS, elles peuvent conclure des conventions avec les fournisseurs d'énergie pour imposer des tarifs sociaux et les proposer ainsi aux ménages qui n'ont pas les moyens. Est-ce qu'on a entendu parler de cette question-là alors que le pétrole est en train d'augmenter, il y a des tensions géopolitiques sur l'énergie, on sait que le prix de l'électricité désormais dans le marché européen, l'électricité, il est corrélé au prix du pétrole et du gaz. Voilà des sujets qui permettraient de ramener tout le monde à l'intérieur de la sphère publique et politique. Pff, évidemment, c'est pas le cas. L'important, c'était de savoir si Mélenchon était antisémite et est-ce qu'il y allait avoir des alliances au second tour. Même logique pour la flotte, hein. Garantir un accès à un prix réduit, voire, pourquoi pas gratuit, à des premiers volumes de consommation, c'est des besoins qui sont essentiels, quoi. C'est des appliquer des tarifications progressives au-delà des seuils pour les consommations de confort. C'est sûr que, par exemple, pour se laver ou pour boire, ça paraît plus intelligent d'avoir un prix de l'eau qui soit le plus bas possible plutôt que pour remplir sa piscine ou laver sa bagnole électrique, hein, évidemment. Hein. Bon, la question de la bouffe, la question des cantines scolaires, etc., etc. Enfin, voilà des choses qui pourraient être vraiment intéressantes et importantes. Et vraiment, moi, ce n'est pas en tous les cas dans ma ville ce dont j'ai entendu parler, puisque ouais,
mais pas,
j'ai entendu
y a pas,
parler.
Y a pas carin, ça.
Non, j'ai entendu parler de sécurité.
Ah, surtout sécurité.
C'est oui, ça, de ça. Police des transports, etc. Etc. Donc, voilà, les municipales, c'est parfois la possibilité de reconnecter la politique à la réalité vécue, à une réalité matérielle des gens qui vivent sur le lieu où ils votent. Et dont les décisions vont avoir vraiment lieu.
Mais on en est loin.
On en est vraiment très 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 loin. Et là-dedans, je crois que les médias, alors nationaux, enfin les médias locaux également, puisque quand on regarde notre torchon préféré, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire là-dedans. Hein. Alors moi, j'achète deux fois l'Union dans l'année. Hein, c'est pour savoir comment qu'on a voté à côté de chez moi dans mon bureau de vote, pour savoir si je dis encore bonjour à mes voisins ou pas. Et puis quand il y a du foot, hein, mais mais là c'est pas le cas. Donc c'est assez terrible et tragique quand même. Bon, il y a les chiffres, il y a toujours un intérêt, ça permet d'avoir les trucs, mais sur le fond il y a pas grand chose. Et alors On le voit de manière très intéressante où, ben par exemple, hein, pour le coup, pour ceux qui avaient des insomnies hier soir, on pouvait voir que on parlait principalement des grandes villes, parce que ça excitait les commentateurs, mais qu'il n'y avait aucune analyse véritablement de ce qui se passait. Alors, évidemment, tout le monde relève le taux d'abstention, mais on cherche pas à savoir pourquoi, et à éventuellement interroger des gens pour leur demander est-ce qu'ils savaient, pourquoi ils y vont pas, etc. Et ce qui est aussi très intéressant et très impressionnant, c'est que on nous surine toute l'année en nous expliquant qu'il faut être citoyen, et que être citoyen, c'est avoir des droits, mais c'est surtout avoir des devoirs. Et quand on doit exercer cette citoyenneté, en l'occurrence par le droit de vote, qui est normalement l'expression la plus importante de cette citoyenneté, et ben la société, en tous les cas les organes de la société, elles sont pas du tout mobilisé. Je donne un exemple. Au Danemark, pendant les élections municipales et pendant les élections, les transports sont gratuits. Tous les transports. Alors même le train. On sait par exemple qu'il y a des gens, pour les municipales ou même pour d'autres, qui sont pas inscrits sur le lieu où ils vivent.
Bah, évidemment.
Ce qu'on appelle les mal inscrits, parce qu'ils sont obligés de se déplacer. Les étudiants notamment, les, jeunes,
les jeunes,
etc.
Ouais.
Et ben, c'est un coût. De venir se déplacer, pour ceux qui se rappellent, dans les années 80 encore, on allait voter avec papa, maman, et on revenait souvent dans le lieu de son école primaire. C'était souvent l'occasion de voir des anciens collègues et de prendre des nouvelles les uns des autres. Donc voilà, par exemple, de genre de monsieur. Et puis la population, il n'y a pas eu de mobilisation de la société, de la municipalité, de la collectivité pour se mettre en branle, pour aller faire voter. On n'a pas vu à l'intérieur des espaces communs, alors la publicité on en voit, mais pas d'invitation à aller voter. Il n'y a pas des gens qui passent chez nous pour nous dire ce dont on a le droit de faire et ce dont on n'a pas. Voilà, comment on peut le faire, quoi. Comment on peut le faire? Il y a eu le recensement il n'y a pas très longtemps. Il était bien indiqué que le recensement, et refuser de faire le recensement, était passible d'une amende.
Une amende.
Mais il n'y a pas des gens qui passent chez vous pour vous demander si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et puis si vous avez bien reçu votre carte d'électeur. Hein. C'est-à-dire que, ok, les droits. Ok, pour les devoirs, pour les droits, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans cette abstention, ce qu'on appelle l'abstention différenciée, et qu'elle est vraiment, véritablement énorme dans certains secteurs de la société, les jeunes d'origine immigrée, les populations les plus pauvres, et que ça arrange évidemment extrêmement bien les dominants. Puisque eux, les bourges, effectivement, en général, et les vieux, ils vont voter, et en général, ils votent à droite. Mais ce qui est aussi, à mon avis, intéressant, quelque chose qui mériterait d'être creusé et qui risque de venir de plus en plus au cours des prochaines années, c'est la modification des espaces de politisation et des espaces de conviction à l'intérieur des des sphères politiques. Alors, fondamentalement, avant, on avait des espaces de politisation qui étaient de la sociabilité, l'école, l'université, le travail, l'espace public, le cadre pratique vraiment important, c'était le marché. Ah, donc au marché, on va faire son marché, on rencontre les candidats, il y a les militants qui vendent leur salade, c'est normal, c'est au marché, et qui essayent de convaincre, ils vous donnent un tract, etc., machin, etc. Le marché, c'est le truc caricatural de la politique française. Et alors bon, le marché, ça fonctionne plus trop. Déjà parce que les légumes c'est cher, donc comme on n'a pas de thunes, on va plus au marché, ça, c'est sûr. Mais il y a aujourd'hui des phénomènes de conviction qui sont devenus de plus en plus individuels, mécanisés, scientificisés, et surtout qui relèvent d'une industrie qui mériterait vraiment d'être creusée. Alors, on a pu avoir ce type de choses qui a pu être bien connu aux États-Unis avec toute la polémique et l'affaire qu'il y avait eu autour de Cambridge Analytica, qui était cette société de data broker, donc qui collecte des données et qui les traite, qui collecte des données numériques. qui avait pu identifier que l'élection américaine, la première élection de Donald Trump, pouvait se jouer autour de 30 à 40 000 voix sur certains États, et qui avait fabriqué des contenus spécifiques pour influencer et tenter de convaincre ces petites dizaines de milliers de personnes qui étaient susceptibles de faire basculer certains États. Et ce genre de choses, on est en train de le voir de plus en plus en Europe. Alors, pour le coup, c'est en Roumanie, hein, ce candidat d'une chaîne TikTok qui a été propulsé et qui a pu arriver au second tour, qui a eu comme bénéfice d'animer une chaîne vidéo en ligne. C'est quand même très perturbant. Et puis en France, on est en train de le voir de plus en plus. Alors, il y a eu deux, trois affaires, mais on va en citer deux. Donc, il y a eu deux tentatives d'ingérence, deux tentatives d'influence autour de deux candidats de la France insoumise ces dernières semaines. Le premier, François Picmal, le second, Sébastien Delogu. Alors, le premier, ça relève de postes qui ont été générés par des robots. Et le second, c'est la création d'un faux site mis en avant par des commentaires et des posts issus de faux comptes Twitter, eux-mêmes générés par des robots. Et une certaine enquête a permis de remonter à un certain niveau. Donc, par exemple, ces faux comptes étaient hébergés en Thaïlande, mais aussi en Afrique. Donc, des faux comptes qui génèrent du trafic et donc qui publicisent à l'intérieur des données la mise en avant de ce faux compte. C'est un faux compte qui, quand même, accusait Sébastien Delogu d'agression sexuelle, de viol et de participation à du narcotrafic. Ça reste encore obscur, mais il semblerait apparaître que une des sociétés qui a été génératrice de ces faux comptes graviterait dans l'orbite de Elnet. Alors Elnet, qu'est-ce que c'est ? Elnet, c'est une partie du département de la communication et de la propagande israélienne qui est dédiée à la défense de ce qu'on appelle en hébreu la Hasbara. Donc Hasbara en hébreu, ça veut dire l'explication, mais en gros c'est la propagande, de la propagande et de la défense de l'État israélien et de sa politique, et évidemment de ses représentants politiques, en Europe, et plus particulièrement dans le cadre de trois ou quatre grands secteurs, à savoir le juridique, l'informatique et le politique. Alors, pour le politique, j'ai pas trop d'éléments, mais pour le juridique, c'est l'ensemble des plaintes qui ont été déposées, par exemple, pour apologie du terrorisme, où on a vu apparaître des groupes d'avocats ou des associations à un échelon européen qui ont matraqué les gens. Et d'un point de vue numérique, et ben, c'est ce qu'on vient de décrire, du harcèlement, des faux comptes, des opérations montées, etc., etc. Alors, il y a un deuxième exemple aussi qu'on peut donner, hein, c'est cette candidate, Sarah Knafo, débarquée de nulle part, avec pas de militants. Alors, Sarah Knafo, c'est le parti Reconquête. Le parti Reconquête, c'est 7% aux élections présidentielles, c'est un député européen, c'est un peu moins de 4500 militants. Incroyable, quand même. C'est Éric Zemmour, hein, multiples condamnations pour incitation à la haine raciale, condamnation aussi pour contrefaçon, condamnation aussi pour utilisation d'images abusives et non-respect du droit d'auteur. Il commence à avoir un beau palmarès, hein, en termes de casier judiciaire. Enfin, après, c'est du casier judiciaire de politique, hein. Ça reste, on n'est pas dans le coup et blessure ou dans, quoique, là, on en voit quelques-uns qui commencent à arriver. Et, Reconquête, donc, Sarah Knafo, c'est donc une députée européenne qui siège avec ce qu'il y a quand même de plus crade, en termes d'extrême droite européenne. Donc, c'est l'AFD, les néo-nazis allemands, pour la migration, c'est les fascistes italiens, ceux qui trouvent que Mélanie, ben, elle est trop gentille, donc ça donne le niveau quand même, c'est Orban et les Hongrois, et c'est les FPO, enfin l'équivalent du FPO autrichien. Donc c'est vraiment très 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 hard. Hein. Et comme elle est toute seule, elle a pas forcément pourrait choisir. Hein. Elle a pas de nécessité de d'avoir un intérêt à gratter quelque chose. Donc c'est vraiment de la conviction. Et donc, ben, Sarah Knafo, elle a évidemment été mise très en avant par les médias, hein, comme vous pouvez le voir, puisque elle a eu le droit pour sa déclaration de candidature au plus grand journal télévisé d'Europe, c'était F1, hein, c'est Gilles Boulot, qui évidemment à aucun moment n'a fait mention de ses engagements européens et des condamnations de son compagnon chef de parti. Hein, tout ça a été extrêmement bien déroulé. Mais elle a aussi bénéficié vraiment d'un appui extrêmement important de la part des réseaux sociaux et des moyens. Alors pour le coup, dans deux études, l'Institut Arago, c'est un groupe qui fait des recherches sur les performances des vidéos des candidats pour voir comment on peut utiliser ça. Alors l'Institut Arago a pas de visée politique, elle a plutôt des visées mercantiles, puisque à l'intérieur des nouveaux entrepreneurs politiques, maintenant on a des gens qui se spécialisent dans la communication et c'est un vrai marché. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait que tout cela s'auto-alimente. C'est-à-dire, je viens, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait une école de commerce, les candidats sont des produits. Il faut être capable de vendre son produit et sa lessive. Et il est évident que ça crée un marché. Et donc, il y a des gens qui vont se spécialiser là-dedans et qui vont pouvoir voir le faire. Et on s'aperçoit que Sarah Knafo a pu avoir des millions et des millions de vues sur Twitter. Puisque janvier 2026, les vidéos de campagne de Sarah Knafo ont totalisé près de 17 millions de vues. Pour te donner un exemple, Rachida Dati, c'est seulement 1,4 million de vues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est sur des rapports de 1 à 10. Hein. Alors ça, c'est en janvier. En février, on est à 200 000 contre 20 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on a des outils d'administration de cette propagande politique qui vont générer du trafic et qui vont faire que quand vous allez rechercher par l'intermédiaire de mots-clés, de mots-codes, soit si vous intéressez à la politique, mais peut-être autre chose, vous proposez systématiquement cette référence-là. En fait, c'est comme si vous cherchiez quelque chose à bouffer ou un bouquin et que à l'intérieur de la proposition, il y avait obligatoirement cette proposition-là, même si vous l'aimiez pas, même si ça fait pas partie de vos choix, etc., etc. Et ce qu'on voit là, c'est que la vidéo qui a été le plus boostée, la plus appuyée, c'est une vidéo où Sarah Knafo mange une baguette. Donc il a aucun intérêt politique et aucun lien avec les thématiques qui sont défendues à la mairie de Paris. Par contre, si vous mettez prix de la baguette, eh ben vous allez avoir cette occurrence qui va arriver. Et donc cette stratégie, cette technique, cette méthode, elle va permettre de faire croître ce qu'on appelle en théorie cognitive des bulles de filtre, c'est-à-dire que comme vous êtes toute seule devant votre écran, vous allez systématiquement avoir des renvois vers des choses qui sont de la même thématique. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à des thématiques de droite ou d'extrême droite, eh ben vous allez être renforcé sur des thématiques de droite et d'extrême droite, et on va pas vous expliquer que l'extrême droite, ça a des conséquences, etc., etc. Donc, ça va gonfler. Or, comme la relation à la bulle de frites, à l'algorithme et à la recherche est individuelle, alors elle renforce de fait les idéologies les plus réactionnaires, les idéologies les plus hard, les plus crades, etc., etc. Et oui, évidemment, quand on discute politique sur un marché ou quand on discute politique en famille, on peut avoir des points de vue qui sont différents, et on peut avoir des arguments, on peut devoir même parfois se confronter et on doit être obligé d'argumenter. C'est sûr que publiquement, si à la fin ton dernier argument c'est « j'aime pas les Arabes », bon, bah, il faut être capable de l'assumer quand même, un minimum, publiquement. Et enfin, à la fin, c'est pas un argument. Or, dans ces bulles de filtre et dans ces stratégies cognitives, vous êtes tout seul. Donc si là, vous dites « j'aime pas les Arabes », on va vous dire non seulement vous avez raison, mais en plus c'est très bien, et on va vous dire également « moi non plus, j'aime pas les Arabes, et c'est pour ça que tu dois voter pour moi ». Et ça, c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus terribles, prégnantes, qui relèvent d'une sorte de manipulation à la fois à grande échelle et à la fois à petite échelle. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces outils-là, ils sont entre les mains de gens qui sont là d'abord pour faire du pognon, pas non plus être stupides, mais qui ont véritablement des projections et des envies politiques, puisque si vous nous écoutez, vous savez que Elon Musk n'est pas du tout dans un trip progressiste bien au contraire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment creuser et regarder comment faire pour pouvoir peut-être pas les contrer, mais avoir une vraie intelligence de ça et prendre en compte ces mécanismes-là. Voilà, après, on pourrait peut-être parler d'autre chose, mais on va pas non plus faire trop long là-dessus. Il y a quelque chose qui, moi aussi, m'apparaissait important, c'est que on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a un groupe et un parti qui nous interroge par rapport à sa représentation politique et à son existence politique et à son histoire politique, c'est le Parti communiste français. Alors, le Parti communiste français, c'est censé être un des partis qui a le plus d'adhérents, mais qui, fondamentalement, l'intérieur de la vie politique du quotidien est extrêmement faible. Et pourtant, il a une capacité d'existence et de nuisance qui reste quand même extrêmement important. Alors, c'est un groupe à l'Assemblée nationale, bon, qui a été l'année dernière, sauvé grâce à la complétude de députés d'outre-mer, ouais, qui leur a permis de conserver un groupe et donc les privilèges qui vont avec, savoir du fric, de la représentation, des commissions, etc., etc. Mais c'est aussi et surtout un groupe au Sénat. Comme on vous l'expliquait en début de l'instant, c'est extrêmement important puisque là aussi il y a du fric, de la représentation, des collaborateurs, etc., etc. Parce que vous imaginez bien que ces gens font de la politique tout le temps, ils n'ont pas trop le temps de bosser, il faut quand même qu'il y ait des gens qui bossent un minimum pour eux. Et alors là, pour le PCF, c'était quand même un peu la lutte finale, hein, parce que il y avait encore des ancrages locaux non négligeables, mais le parti de Fabien Roussel allait devoir vraiment cravacher pour conserver ses derniers bastions, notamment dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, et puis dans les Bouches-du-Rhône. Mais évidemment, dans ces villes, les communistes, ils avaient été en première ligne. Il fallait être à l'extrême droite, qui gagne évidemment du terrain. Alors, un exemple, hein, Saint-Pierre-des-Corps, bien connu de ceux qui prennent le train. Ah, ouais. Et ben oui, parce que Saint-Pierre-des-Corps, c'est non seulement un nœud ferroviaire, un technicentre extrêmement important, un point de passage où on passe pour changer de train pour ceux qui prennent le train, mais c'est aussi d'abord une composition sociale extrêmement importante, puisque c'est d'abord une cité cheminote en beau-lieu de Tours. C'est 15 000 habitants, et c'est 100 ans de communisme. C'est une des premières villes qui est passée au PCF. Alors à l'époque c'était la SFIC, c'est une ville qui est passée à droite en 2020, qui va peut-être repasser au PCF, quoi. Alors il y avait Le Havre, il se trouve que finalement ça va pas le faire. On a appris que Saint-Amand-les-Eaux était passé à Fabien Roussel au premier tour. On a vu que Fabien Roussel, ces derniers temps, ces derniers mois, avait un peu fermé sa gueule,
ouais,
Hein. C'est donc certainement qu'il avait été bossé parce qu'il savait que ben, s'il n'arrivait pas à gratter quelque chose, puisqu'il avait perdu sa députation contre le Rassemblement National, quelque part, c'était peut-être un peu fini pour lui à l'intérieur de la structure du Parti communiste français. Il est clair que sa position de secrétaire général allait être un peu menacée. En tous les cas, il aurait certainement moins la possibilité d'ouvrir sa gueule. Le PCF, c'est donc, on l'a dit, hein, 2,28% à la présidence de 2022. Mais c'est quand même 600 maires qui administrent 2 600 000 habitants. Et donc, en termes de volume, c'est le deuxième derrière le Parti Socialiste, quoi. Donc, on l'a dit, hein, c'est aussi la possibilité de placer des gens, d'avoir des moyens, d'avoir du fric, etc. Alors, il y a Nîmes également, qui est là à touche-touche. Et puis, il y a Alès aussi. Donc il y a quand même des enjeux qui vont être importants pour les communistes locaux qui vont pouvoir faire vivre leur fédération, mais aussi ce que ça va donner, puisqu'on l'a dit, directement des municipalités va peut-être arriver des groupes au Sénat. Et selon les résultats qui vont avoir lieu dans les communes, dans les municipalités qu'on a citées, on risque peut-être d'avoir des équilibres politiques qui restent de changer, non pas en termes d'idéologie ou de, comment dire, de structure partisane, c'est-à-dire pas que les gens vont tel ou tel avoir tel ou tel type d'engagement, mais véritablement en termes de structure de comment fonctionne l'État français, la République et la Ve République, qui est un système extrêmement bien rodé, une machine extrêmement bien huilée et qui a besoin, si on veut avoir une existence politique, d'être dans des canaux qui fait que quand on les a, c'est assez facile d'y rester et on peut tenir la dragée haute, mais quand on les a pas, pour y rentrer, c'est compliqué, et quand on les perd, ça craint vraiment, ça tue.
Allez,
et peut-être que là, je termine ma phrase, peut-être que là, le PCF est en train de jouer sa survie.
On fait une petite pause musicale.
À toi.
C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan de tous les diables. C'est un ram-dam, c'est un râle d'homme, un râle-bol, une bouteille du tissu et de l'alcool. C'est un fond de cale, un calvaire, la gueule du sauvage son qui veut pas se taire. C'est une espèce tenace, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays. La boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille et bien j'en suis. C'est un lion, c'est une panthère. Tête baissée, le poing en l'air. C'est un combat, un constat, une réflexion. Un siècle et demi après la redéfinition, c'est du piratage, sabotage, de la graine de mutin, c'est de l'abordage. C'est la science du renversement, l'ennemi de l'ordre des gouvernements. C'est ici, c'est maintenant, c'est ce son dans les tympans. La conséquence, le réceptacle, l'alternative à la débâcle. C'est l'évolution, c'est l'après, c'est l'héritage, c'est la clé. Oh, c'est ce phare qui brille dans la nuit. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est la lave d'un volcan qui se réveille. C'est la vague qui te balaye, c'est le vent. Un vent d'humanité. On veut la justice, pas la charité. Au nom du merveilleux de ses yeux écarquillés. Au nom de la beauté de nos rêves éparpillés. C'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre. À réduire un système en cendres. C'est une armée, c'est une légion internationale et la pression. C'est plus haut que les frontières et les barbelés. C'est des mots pour marteler. C'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est la lutte comme un rempart à l'ennui. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, vis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, vis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. Et bien j'en suis.
Oui, 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 non mais tu me regardes, mais j'escomptais te laisser la parole.
Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus par rapport aux élections
disons qui sont ta grande passion, on le sait.
Ça se voit. oui, c'est sûr que c'est pas ma grande passion. Mais d'un autre côté, faut toujours regarder ce qui se passe puisque c'est une photographie. Instantanée, qui n'est plus bonne dans un mois, dans six mois, de la situation politique en France, c'est-à-dire la situation politicienne, dirons-nous. Alors, quand on regarde un peu, d'un côté, le débat LFI-PS, c'est lamentable au niveau du PS, quoi. Vraiment, c'est pire que ça. Quoi, c'est-à-dire. Et quant à Glucksmann, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, place publique, alors là, ça bat tous les records.
C'est vraiment
la bourgeoisie.
À fond.
Parce que bien dire quand même que il faut quand même expliquer que quelqu'un comme Hollande ou comme Glucksmann, c'est des gens qui sont bourrés de fric, hein, puisque c'est des gens qui ont qui avaient l'impôt sur la fortune à
tout
une
à
époque.
Fait. Hein.
Et bon, et qui l'ont toujours, mais sauf que l'impôt n'existe plus. Donc effectivement, bon, c'est triste de voir ces gens-là. Qui, paraît-il, sont des porte-parole des pauvres gens. Comment on peut être porte-parole des pauvres gens quand on gagne autant de fric?
Oui, et puis en plus, enfin, c'est-à-dire quand même la baudruche Glucksmann qui est véritablement, comment dire ça, enfin la voix de la CIA à l'intérieur de l'Europe, quoi. C'est,
ouais.
c'est on est vraiment sur le total OTAN. Enfin c'est quand même plus que clair. C'est un individu. Je sais pas. Je crois qu'il y a 2000 adhérents à place publique. C'est vraiment ridicule par rapport.
Mais n'empêche qu'ils ont une
surface.
Ils ont comment dire. Ils ont des ce qu'ils disent, c'est repris par les médias d'une manière incroyable, hein, incroyable. Ils représentent rien, mais n'empêche que à chaque fois qu'ils parlent, waouh.
À fond. Et puis là, c'est quand même aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que alors c'est des groupuscules internes, mais on voit que la ligne de gauche raisonnable défendue dans les médias par Hollande et d'autres types comme Glucksmann mais aussi Carole Degas etc qui était de mettre une barrière étanche face à la France insoumise est complètement explosée par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Alors il y a évidemment des intérêts qui convergent, mais si on prend Toulouse par exemple, il y a un accord qui est en train d'être fait pour éventuellement récupérer la ville à gauche et Toulouse, c'est la plus grande ville de l'Occitanie, région Occitanie qui est dirigée par Carole Delga, qui s'est distinguée au cours de ces trois dernières années par la plus dégueulasserie qu'on peut savoir, à savoir la volonté d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, la tentative de réaliser une alimentation de ce pseudo-bloc central qui irait de Manuel Valls, du PS Raisonnable, jusque... éventuellement Gabriel Attal et d'autres types de centre-droit. La disqualification de toute solidarité avec Gaza et la négation de ce qui se passe et de la politique israélienne, une soutien pro-sioniste à fond les ballons. Évidemment l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme pour tout ce qui se passe. Enfin bon voilà, en réalité cette ligne là qui est défendue à longueur de journée sur les antennes, elle est complètement marginalisée dans la réalité quoi.
Alors le deuxième point que je voudrais dire, c'est que la Macronie c'est fini quoi.
Ça c'est clair,
on n'en cause plus. Bon alors Renaissance se tape sur le ventre parce qu'ils auraient une centaine de voix, une centaine de maires de petites communes, etc. Mais ils ne pèsent plus rien, quoi.
Que dalle.
Donc, bon, c'est pas nous qui allons...
Le regretter,
c'est moins qu'on puisse dire.
Mais ça pose quand même un problème, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui applique une politique où il est minoritaire à l'Assemblée nationale et il est minoritaire dans le pays, c'est-à-dire que cet individu n'a jamais été capable de créer un espace politique matérialisé à l'intérieur de la société française qui puisse à la fois appliquer, en tous les cas relayer sa politique, mais aussi être le relais de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y avait des militants Renaissance dans les boîtes, dans les associations, au quotidien, bon déjà on s'occuperait d'eux, ça c'est sûr, mais en tous les cas ils auraient des comptes à rendre et il y aurait une espèce d'interface. On a des gens qui n'ont aucun pied dans la société, ou ouais, alors de manière extrêmement marginale dans des professions très très particulières, des bourges quoi, c'est clair, ouais. Mais bon voilà, quand même vrai.
Puis,
problème quoi.
Troisième point que je voulais dire, c'est la confirmation encore une fois que l'antifascisme ça marche pas, hein, même si effectivement le RN n'a pas convaincu la majorité de la France, ne va pas basculer majoritairement dans les bras du RN, n'empêche que ils s'installent, bon ils ont leur fief, bon et ils arrivent à s'en sortir et finalement les agitations antifascistes pour espérer les faire reculer, ça ne marche pas, c'est sûr.
Ben ça c'est une question qu'il va falloir aussi être capable de se poser, c'est-à-dire qu'est-ce que on entend par antifascisme, qu'est-ce que ça recolle. Alors la semaine prochaine on va faire un teaser, on n'aura pas le temps, mais on va écouter des membres de l'ex-jeune garde qui on témoigne, nous font quelques confidences, en tous les cas de nous disent quelques mots sur comment ils concevaient leur antifascisme. Et on a beaucoup de bruit, beaucoup de représentations pour un résultat qui finalement est très très faible, hein. On le voit ici à Reims, c'est 21% pour la liste du Rassemblement National avec une candidate qui n'habite même pas à Reims, habite en extérieur, qui est déjà députée européenne, donc en termes de siège, ne va pas venir s'embêter pour 300 balles par séance ici, alors qu'elle gagne 7800 balles au Parlement européen, et dont le numéro 2, qui est en charge de la sécurité, a lui-même été condamné pour violence. Donc, ça peut être sympa, hein, en termes d'adjoint de sécurité, ça peut donner des trucs assez sympathiques. Peut-être que si on avait d'antifascistes conséquents, comme il y a une vingtaine d'années, il y aurait eu un travail de fait sur cette liste pour qu'on sache qui la compose, mais en tous les cas les autocollants, les AG antifascistes qui devaient avoir lieu la semaine dernière à Croix-Rouge, ça semble pas très bien fonctionner, comme si les antifascistes ne comprenaient pas les sources de la production de ces groupes autoritaires. C'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est pas parce que les gens sont pas informés, c'est pas parce que les gens sont méchants, ou alors c'est pas parce que ils sont plus musclés que nous, ou ils sont plus violents, ou ils sont plus malins. C'est pas pour ça en fait. C'est que l'autoritarisme, le fascisme, il a une fonction à l'intérieur de la société capitaliste. Quand la bourgeoisie en a besoin, quand elle épuise les moyens qui sont à son disposition, eh ben, elle a encore ce truc-là. Truc-là, hein. Après, il faut savoir si ce qu'on on a aujourd'hui, c'est du fascisme. discuter pendant des siècles et des siècles de voir qu'est-ce que c'est que le fascisme, puisque selon la définition qu'on te donne, on a les moyens de lutter avec, hein, de ça va ensemble, c'est un pacte. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui le pacte raciste il fonctionne dans la société plutôt que le pacte égalitaire. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens ils choisissent d'utiliser cette revendication là pour comment dire apparaître politiquement dans l'espace de la société, même si peut-être au fond d'eux-mêmes ils sont pas forcément hyper racistes. Il y en a, c'est clair, on est en France, on va pas se cacher, mais il y a des gens qui vont souvent te dire ah ben oui mais moi voilà, lui il est sympa, mon voisin il est bien, mon collègue de travail ça va, mais je vote quand même RN parce que j'en ai marre, on n'a jamais essayé, etc. Mais c'est très bien que c'est le pacte raciste qui naît, mais parce que on vit dans le capitalisme, et dans le capitalisme quand il est en crise, le principal baratin qu'on va nous lâcher, c'est l'argumentaire de la pénurie, c'est de dire il y en a pas assez pour tout le monde.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas assez pour tout le monde.
Et puis la recherche du bouc émissaire.
Voilà, c'est ça. Et le capitalisme, c'est le capitalisme de la pénurie. C'est de dire, ah, tu comprends, on a fait 15% de croissance, donc comme tu veux pas travailler plus, et gratos, il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc voilà. Hein, c'est... Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que pour contrer cette dynamique et ce discours de la pénurie, il faut dire que la pénurie, elle est organisée.
Tout à fait.
Bien évidemment qu'il y a largement ce qu'il faut. Et un discours de gauche, et un discours révolutionnaire et un discours anticapitaliste, c'est un discours qui se base justement contre la pénurie. De dire, mais bien sûr qu'on peut y arriver. On peut arriver en travaillant moins, en ayant plus, mieux et dans des meilleures conditions. Et c'est vraiment quelque chose, parce que c'est une question d'organisation de la société et de ce qu'on produit et pourquoi faire. Pourquoi faire? Et ça, c'est, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on entend dans l'antifascisme. On est surtout dans un truc de défense, dans un truc parfois même d'autodéfense. Alors, il est normal que les gens qui soient principalement menacés se défendent, mais il faut toujours rappeler que l'autodéfense, la défense et la violence, c'est pas un truc de spécialiste. Dans l'histoire, les moments d'antifascisme et d'autodéfense antifasciste qui ont été les plus importants, les plus impressionnants, ce sont des moments collectifs. Alors, on l'a souvent dit, on l'a répété, l'autodéfense collective la plus intéressante qui a eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, c'est l'autodéfense contre la ratonnade qui a lieu au quartier de la Monnaie, pas très loin de Crépol, après la mort du jeune Thomas, où il y a eu pendant quelques semaines tout un barouf autour de cette affaire, et il y a eu quelques néo-nazis et quelques fascistes qui sont descendus donc dans ce quartier de la Monnaie pour faire une expédition punitive, qui se sont fait accompagner très poliment et très gentiment à la sortie. Et dans l'histoire, c'est Cable Street, c'est des moments très importants, ou Notting Hill, je pense en Angleterre, quand il y a eu des tentatives de défilés fascistes par Howard Mosley, où il y a eu des manifestations, des contre-manifestations importantes, où c'est par exemple Minneapolis, là on a vu ces derniers temps avec la mobilisation populaire contre l'ICE, c'est pas des groupes spécifiques qui se sont organisés, c'est vraiment des mobilisations populaires. Bon voilà, alors on aura peut-être l'occasion de redire deux trois mots la semaine prochaine sur les second tours, mais il y a quand même un truc qui est sympa et qui est drôle pendant les municipales, c'est un peu comme à l'époque les cantonales. Hein, c'était aussi super sympa. C'est d'aller chercher, quand on a le journal et d'en regarder, de chercher des candidatures et des résultats complètement hallucinants. Alors, j'en avais vu une bien, à Mantes. Pas à Mantes-la-Jolie, mais à Mantes-la-Ville. Autre chose.
C'est
hein.
À côté.
Ouais, c'est à côté. Donc, il y avait une candidate RN qui s'appelait Monique Führer. Donc, je crois qu'on peut dire qu'elle a été prédestinée. Mais le truc le plus dingue que j'ai trouvé, c'est chez nous. Bravo. C'est en Champagne-Ardenne. C'est Arcis-sur-Aube. Donc tu connais,
connais bien
ouais. c'est dans l'aube. Et là je crois qu'on n'arrivera jamais à faire mieux, puisque pardon. Donc Arcis-sur-Aube est arrivé en tête. Agissons ensemble pour Arcy avec 37,81%. Monsieur Charles Hitler. H-I-2-T-L-E-R. Mais rassure-toi, parce que avec 29,99%, monsieur Antoine Reynaud-Zelensky va certainement pouvoir apporter une réponse à cette réponse. Alors voilà, je sais pas, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment, ça a été repris par certains médias. Donc Charles Hitler 37,81, Annie Souka 32,20 et Antoine Reynaud-Zelensky 29,99.
Ah, il y a aussi plus triste, un maire qui a été battu hier et qui s'est suicidé.
Oh, ouais. Il aurait dû le dire avant. Peut-être que ça aurait marché. Oh, le pauvre, c'était où ? Faut pas faire ça.
Au Pays Basque.
Ah, c'est incroyable. Incroyable. Peut-être pas dans l'isoloir quand même, si.
Ah ça, non, je crois pas.
Mais bon, voilà. Donc, il y en a. Si vous avez quelques perles comme ça, vous pouvez nous les envoyer aussi. Mais celle-là, j'avoue que je l'avais pas vu venir, quoi, hein, quand même. Hein, mais c'est quand même incroyable. Comme quoi, on peut faire de la politique en s'appelant Hitler, hein. C'est pas. Alors, je connais pas la couleur politique de sa truc. Je pense que c'est une liste sans étiquette. Arcy Sozo.
C'est droite, hein.
Ah oui, bon, on a quand même trois listes. Hein. Agissons ensemble pour Arcy. Construisons l'avenir pour Arcy et Arcy Suro passionnément. Alors Arcy, c'est pas beaucoup, hein, c'est moins de 8000 habitants, hein,
oui.
Hein, c'est quelque chose comme ça, donc on verra bien. Bon, nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec de nouvelles aventures et malheureusement, certainement pas un nouveau maire. Enfin, si, mais ça sera le même.
Ça sera le même.
Que celui d'avant, qui est pas content parce qu'il a pas été élu
au premier tour.
Il faut dire que ça ronronne un peu dans la droite rémoise, donc. Il y a quand même eu un dissident candidat qui a fait 7%, donc il sera remboursé de ses frais de campagne. Hein, alors, vous inquiétez pas, c'est pas avec ses sous à lui, hein, c'est avec les nôtres, qui avait d'ailleurs sa permanence sur la place d'Erlon. J'imagine même pas le prix du loyer. Ça devait être une dinguerie. Et donc, à qui la candidate Rassemblement National vient de proposer de fusionner, de venir pour gratter 7%, hein, c'est pas grand chose. Est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller? Alors, il a pas le droit de se maintenir, mais il peut fusionner. Donc, s'il fusionne, il est potentiellement sur une place éligible et donc peut-être une représentation ou une commission ou un truc comme ça. Donc, on va voir si Monsieur Lang, il a des convictions ou pas, ou s'il est capable pour un demi-plat de lentilles, parce que là on parle de place au conseil municipal, c'est vraiment pas grand chose. Et puis de l'autre côté, il y a notre nono préféré qui est à quoi, 46,
je sais plus, oui,
c'est... oui, c'est ça, 47. Mais c'est quand même une petite déception, hein, parce que d'habitude c'est premier tour et là ça le fait pas, donc on sent quand même qu'il est temps que son mandat se termine, troisième mandat. Il est temps de pouvoir passer à autre chose, parce que là, on est en train un peu commencer de racler les fonds de placard, et il est vrai que la politique municipale d'aménagement urbain et d'une manière générale est vraiment lamentable. On est en train de passer dans une ville où il y a de plus en plus de béton. L'été va être particulièrement intéressant et chaud. La végétalisation est pas beaucoup, mais bon, comme il faut construire et qu'il faut pouvoir nourrir les promoteurs, hein, il faut bien des trucs, des trucs comme ça.
On va se quitter, donc là, je crois qu'il va être
20h. Il est 59, pardon. J'avais 58, je ne suis pas à l'heure. Excusez-moi pour ça. Et puis, à très bientôt, à la semaine prochaine.
S'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive. Légal depuis 1981.